Pierre de Ronsard, une révolution poétique. À l'occasion du 500e anniversaire de la naissance de Pierre de Ronsard, France Mémoire, la mission des commémorations nationales, vous propose une série en 6 épisodes pour entrer dans l'œuvre de ce poète étonnant de la Renaissance. Cette série, fruit d'une collaboration avec Luce Albert, maîtresse de conférences en littérature du XVIe siècle, est illustrée de poèmes interprétés par des étudiants de l'Université d'Angers. Vous écoutez l'épisode 2, Ronsard, chef de bande.
Un roi, tant soit-il grand en terre ou en prouesse, meurt comme un laboureur sans guerre, s'il ne laisse quelque renom de lui. Et ce renom ne peut venir après la mort, si la muse ne veut le donner à celui qui doucement l'invite, et d'honnêtes faveurs compense son mérite. Non, je ne suis tout seul, non, tout seul je ne suis, non, je ne le suis pas, qui par mes œuvres puis donner aux grands seigneurs une gloire éternelle. Autres le peuvent faire, un Bellay, un Jodel, un Baïf, Pelletier, un Bello et Tiard, qui des nœuds seuls en don ont reçu le bel art de faire par les vers les grands seigneurs de vivre.
L'hymne à Henri II, dont vous venez d'entendre un extrait, a été composé en 1555. C'est un hymne qui illustre vraiment parfaitement la position de Ronsard que nous avons évoquée dans l'épisode 1, position qui proclame que la poésie peut conférer l'immortalité aux puissants. Vous avez entendu, un roi, si grand soit-il, en prouesse, en gloire, peut-être en richesse aussi, hein, est condamné à l'oubli, il meurt comme un laboureur, nous dit joliment Ronsard, si ce roi n'a pu s'attacher les services d'un poète de talent dont la renommée rejaillira sur lui. Vous m'accorderez que c'est quand même une singulière inversion des rapports.
Et le passage qu'on a écouté est aussi un bel hommage de Ronsard à ses amis poètes. Il y a Bellay, Jodel, Baïf, Pelletier. On est vraiment surpris par la façon dont Ronsard nie, dans ses vers, être le seul à posséder ce talent.
Oui, il nie être le seul, mais il le fait avec une telle insistance qu'on se demande à la fin si ça n'est pas l'inverse qu'il veut dire. Hein. Non, je ne suis tout seul, non, tout seul je ne suis, non, je ne le suis pas. En tout cas, on peut quand même lui reconnaître qu'il nomme ensuite 6 poètes importants, majeurs, qui sont Jean-Antoine de Baïf, dont on a parlé dans l'épisode 1, le fils de Lazare de Baïf, ce grand humaniste, Joachim du Bellay, Rémi Bello, Jacques Pelletier-Dumont, Pontus de Thiars et Étienne Jodel. Alors, à ces 6, il faut évidemment ajouter Pierre de Ronsard, ce qui nous fait 7. 7 poètes excellents de son siècle, c'est ce que Ronsard veut dire, et cette symbolique du chiffre 7, vous vous en doutez, est importante pour lui. Et elle est directement liée au nom de Pléiade, qui est ce nom que la postérité conservera pour désigner ces 7 poètes. Cette Pléiade désigne une constellation qui est formée par les 7 filles d'Atlas, dont on dit qu'elles ont été transformées en étoiles. Voilà cette constellation. Mais c'est aussi sous ce terme que, depuis bien longtemps déjà, hein, peut-être déjà au IIIe siècle avant notre ère, on désignait les 7 grands poètes d'Alexandrie. Et dès que l'on trouvait une petite grappe de poètes, on essayait d'en trouver 7 et on les appelait une Pléiade. Donc cela explique ce nom, qui s'imposera dans les manuels de littérature ensuite pour désigner notre petit groupe de poètes, dont il faut se souvenir qu'à cette époque, ils sont âgés de pas plus de 25 ans. Hein. Certains ont 20, 21 ans au début du règne d'Henri II. Ce terme de Pléiade, je dois quand même préciser qu'ils ne l'auront jamais utilisé eux-mêmes hein, pour se désigner eux-mêmes. Peut-être Ronsard l'utilise-t-il une fois. Ils préféreront le mot de brigade. Brigade qui signifie groupe. En français du XVIe siècle, et qui donc est un mot simple et tout à fait adapté, qui peut-être rend mieux compte de la réalité de ce petit ensemble de poètes, de ce petit groupe donc, hein, dont la composition fluctue autour d'un noyau, hein, formé par Ronsard, par Baïf et du Bellay. Voilà. Si bien que quand on nous demande qui sont les poètes de la Pléiade, la réponse n'est pas si simple. Hein. Ce n'est pas toujours les sept mêmes. Quoi qu'il en soit, en tout cas, ce petit groupe est un groupe de jeunes gens issus d'un compagnonnage d'études, qui partagent les mêmes admirations, qui sont pétris des mêmes ambitions littéraires et surtout qui se sont liés d'amitié pendant ce compagnonnage d'études. Et enfin, c'est un petit groupe qui se considère comme l'élite littéraire de leur temps.
Et on peut dire aujourd'hui que la postérité leur a donné raison. Mais alors quand même, si on se met deux secondes à la place de leurs contemporains, on est vraiment estomaqué par leur arrogance, à commencer par Ronsard.
C'est vrai que les poètes de la Brigade sont un peu arrogants à leur début. Peut-être que d'abord, on peut mettre ça sur le compte de leur jeunesse. Hein. Je crois aussi parce qu'ils sont conscients de porter une culture tout à fait nouvelle et puis d'en exprimer les ambitions pour la première fois. Cette posture de nouveauté, hein, de table rase du passé vers une modernité à venir, etc., eh bien, cette posture, elle est vraiment inhérente à leur projet littéraire qui est marqué par une volonté de rupture avec l'âge précédent. C'est la première école, après ce sera classique hein, de dénigrer l'école qui nous a précédés. Mais c'est la première école qui ne montre pas de respect aux écoles précédentes à cause de cette volonté de rupture, d'innovation, de nouveauté. Et de fait, ils vont être très critiques avec leurs devanciers qui auront écrit en langue française, comme Clément Marot ou comme Maurice Sève. Voilà, ce renouvellement poétique que ces jeunes gens appellent de leurs vœux passe non pas par l'imitation de leurs devanciers, mais par l'imitation créative d'une part de modèles importés d'Italie, comme le poète Pétrarque, qui est un poète moderne hein, du XIVe siècle, et surtout par l'imitation des auteurs de l'Antiquité gréco-latine. Les principes de ce renouvellement poétique, c'est Dubellay qui va les formuler dans la bien connue Défense et illustration de la langue française qui paraît en 1549. Alors il faut imaginer quand même l'émulation qui règne dans ce petit groupe de jeunes gens brillants qui sont animés par le souffle de la nouveauté et par cette ambition créatrice. Ronsard va garder à son maître Jean Dorat, qui est un célèbre helléniste, une reconnaissance vraiment absolue. Il évoquera toujours avec beaucoup d'émotion les découvertes enthousiastes de ses années de formation. Et on a conservé plusieurs pièces qui témoignent de toute l'amitié qui règne dans ce groupe, de toute l'émulation aussi qui règne entre eux.
Et donc ce sont des années vraiment très studieuses pour eux.
Ah oui, studieuse, mais quand même, les condisciples de Ronsard forment une joyeuse bande de jeunes. Hein, j'ai dit tout à l'heure qu'ils avaient entre 20 et 25 ans, et ils aiment faire la fête. Nous avons un texte intitulé « Le folâtrissime voyage d'Arcueil », dans lequel Ronsard les met en scène, précisément en train de faire la fête. Ils vont, avec le maître, faire un repas sur l'herbe à Arcueil, et on les voit s'installer près de la fontaine, mettre au frais les bouteilles, manger, boire, nager, batifoler, folâtrer, et puis faire cercle autour du maître, hein, debout, j'entends la brigade, yo, yo, troupe chère. Voilà, et bien lors de ce repas, probablement un petit peu orgiaque, nos jeunes étudiants de la brigade, figurez-vous que vous trouvez bien studieux, et bien figurez-vous qu'ils auraient peut-être organisé un sacrifice bachique.
Alors, sacrifice bachique, qu'est-ce que c'est là? Faut nous expliquer.
Eh bien, le sacrifice bachique consistait dans l'Antiquité à sacrifier un bouc à Bacchus. C'est Virgile, dans les Géorgiques, ou Horace, dans son art poétique, que connaissaient bien nos studieux jeunes gens, qui suggère, donc ces deux auteurs antiques, suggèrent que les gagnants des concours de tragédie dans l'Antiquité, tragédie qui était donnée en l'honneur du dieu Bacchus, eh bien, les gagnants recevaient un bouc pour récompense. Et d'ailleurs, étymologiquement, la tragédie se dit « tragouodé » en grec. Hein, ça signifie « le chant du bouc ». Et Virgile raconte que le bouc était mené jusqu'à l'autel, sacrifié, avant d'être mangé par les convives. Et c'est ce sacrifice qui était censé garantir l'immortalité de la tragédie lauréate. Alors, quel rapport avec nos jeunes gens, me direz-vous? Eh bien, il se trouve qu'en 1553, Étienne Jodelle, vous vous souvenez qu'il avait été nommé par Ronsard plus haut parmi les sept astres, parmi les sept poètes élus de cette Pléiade, eh bien, Étienne Jodelle vient de représenter la première tragédie de langue française conçue sur le modèle à l'antique de l'art poétique d'Horace. Cette tragédie s'intitule « Cléopâtre captive » et elle est représentée devant le roi et elle obtient immédiatement un succès fou.
Rassurez-nous, il ne s'agissait pas vraiment d'un vrai sacrifice, juste un simple simulacre.
C'est difficile à dire. Ronsard se défend d'avoir accompli un vrai sacrifice dans un texte tout à fait savoureux qu'on appelle généralement la pompe du bouc. Plus tard, lorsque les guerres de religion auront éclaté, cette cérémonie potache à Arcueil dont j'ai parlé va lui attirer la foudre des dévots et encore plus d'ailleurs des protestants qui lui reprochent évidemment sans cesse sa paillardise et surtout son paganisme, hein, ce paganisme qui en effet imprègne la vision du monde ronsardienne. Et Ronsard répond dans un texte savoureux que vous allez entendre, il répond à l'attaque d'un protestant. Je vous laisse écouter sa réponse.
Tu dis, en vomissant dessus moi ta malice, que j'ai fait d'un grand bouc Abacus sacrifice. Tu mens impudemment. 50 gens de bien qui étaient au banquet diront qu'il n'en est rien. Muse, qui habitait de Parnasse la croupe, fille de Jupiter qui allait neuf en troupe, venez et repoussez par vos belles chansons l'injure faite à vous et à vos nourrissons.
Ces nourrissons des muses qu'évoque Ronsard, ce sont bien sûr les poètes de la Pléiade qui sont présents à cette fête d'Arcueil, au cours de laquelle le bouc a été donc offert à Jodelle, comme Ronsard le reconnaît bien ensuite.
Jodelle ayant gagné par une voix hardie l'honneur que l'homme grec donne à la tragédie, pour avoir, en haussant le Bastille François, contenté doctement les oreilles des rois, la brigade qui, lors au ciel, levait la tête, quand le temps permettait une licence honnête, honorant son esprit gaillard et bien appris, lui fit présent d'un bouc. Des tragiques le prix.
Et revoici notre brigade, et cette fois-ci, eh bien c'est Jodelle qui a les honneurs de la fête.
Oui, ce démon de Jodelle, comme le surnomme plaisamment Dubélé, c'est le plus jeune membre de la brigade, le plus fou, et il faut comprendre que les jeunes loups de la Pléiade appelaient de leur vœu cette renaissance de la tragédie, ce genre noble par excellence qui pouvait illustrer magnifiquement la langue française. Alors, non seulement Jodelle avait ressuscité en français langue nationale la tragédie, mais il l'avait fait avec éclat, dans des circonstances solennelles, en présence de toute la cour. C'est vraiment le triomphe public de cette nouvelle école poétique qui est menée tambour battant par Ronsard. C'est pourquoi cette pompe est organisée à Arcueil, cette fête, cette cérémonie festive est organisée par ces jeunes pour arroser finalement dignement, entre amis, le succès de Jodelle. Et Ronsard vraiment, on le sent, se plaît à évoquer ce souvenir.
Ja, la nappe était mise et la table garnie se bordait d'une sainte et docte compagnie. Quand deux ou trois ensemble, en riant, ont poussé le père du troupeau à longs poils hérissés. Il venait à grands pas, ayant la barbe peinte. D'un chapelet de fleurs la tête, il avait sainte. Le bouquet sur l'oreille. Et bien fier se sentait de quoi telle jeunesse ainsi le présentait. Puis il fut rejeté pour chose méprisée, après qu'il eût servi d'une longue risée.
Alors là, le père du troupeau, j'imagine que c'est le bouc pour le sacrifice. Mais dans les faits, on s'est simplement amusé aux dépens du pauvre animal avant de le renvoyer à son troupeau.
Ah, mais c'est ce que dit Ronsard. Oui, mais doit-on le croire ? À mon avis, il est difficile d'imaginer que ce bouc soit arrivé ici par hasard. Avec sa barbe peinte, avec sa couronne de fleurs, tout porte à croire quand même que cette fête a été savamment orchestrée. Cette pompe du bouc se présente explicitement par Ronsard comme une fête d'inspiration virgilienne et qui ambitionne de faire revivre les rites grecs tels qu'ils avaient été restitués par les témoignages latins. En somme, on joue à être des Grecs de l'ancien temps. Voilà une jeunesse qui a envie de s'amuser, mais qui s'amuse nourrie de culture antique et qui fait fi des générations qui l'ont précédée, qui est ivre de son succès. Toutes les conditions sont réunies ici pour céder quand même à la tentation de la transgression. Et d'ailleurs, la suite du texte est tellement provocatrice qu'on a quand même le sentiment que Ronsard fait tout pour qu'on en déduise que le sacrifice a vraiment eu lieu.
Sus, bouffons et plaisants, que la lune gouverne. Allez chercher un âne aux montagnes d'Auvergne, d'oreilles bien garnies. Et en mit le cordon, environnez son front de foin et de chardon. Troussez-vous jusqu'au coude, écorchez-moi la bête. Et de ce prédicant attachez à la tête les oreilles, ainsi que les avait Midas, ce lourdeau phrygien, qui grossier ne sut pas estimer de Phébus les chansons et la lyre.
Vous avez entendu, Ronsard s'adresse à nouveau à ses détracteurs et leur suggère d'aller chercher cette fois non pas un bouc, mais un âne, pour célébrer la bêtise du protestant qu'il a attaqué. Cette fois pourtant, l'animal n'est pas répudié, après avoir servi, comme a dit Ronsard tout à l'heure pour le bouc, d'une longue risée. Non, non, l'âne est sacrifié explicitement, écorchez-moi la bête. Et il est sacrifié, évidemment pas pour rendre immortel ce prédicant et sa poésie de bas étage, hein. Mais pourquoi est-il sacrifié? Pour que l'on prélève ses oreilles sur sa dépouille et qu'on en garnisse la tête du prédicant. Non seulement l'homme est ridiculisé, mais Ronsard met en scène ici explicitement un sacrifice, ce qui tout de même tendrait peut-être à valider la réalité du premier, celui du bouc. C'est vraiment très fort, c'est tellement typique de Ronsard.
Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'au-delà de ce caractère facétieux et railleur, ce qui étonne vraiment, c'est cette façon d'interpeller des personnes réelles à travers la poésie.
Oui, ennemi, protecteur, ami, hein, c'est une façon usuelle de faire à l'époque que d'interpeller, comme vous l'avez dit. Et il y a beaucoup de textes de Ronsard qui mettent en scène les autres poètes de la Pléiade. C'est intéressant, ça montre un groupe de jeunes gens qui sont soudés autour de ce projet littéraire, qui adhèrent à des principes communs, hein, qui sont l'imitation des anciens, la valorisation des formes nouvelles, comme le sonnet, et puis aussi la recherche d'une poésie docte, hein, c'est pleine de signifiance, comme ils disent, hein, c'est-à-dire une poésie savante. En même temps, chacun des membres de la Pléiade accomplit ce projet commun avec sa personnalité propre. On voit vraiment que l'amitié n'empêche pas les rivalités. À cet égard, je voudrais vous faire écouter le sonnet 3 de la continuation des Amours, qui est vraiment révélateur de cet esprit à la fois d'amitié et de rivalité. Et vous allez l'entendre, il se donne vraiment comme une adresse familière de Ronsard à son grand ami du Bellay, lui-même mis en scène, dialoguant ensuite avec un troisième larron qui est Olivier de Magny.
Cependant que tu vois le superbe rivage de la rivière Tusque et le mont Palatin, et que l'air des latins te fait parler latin, changeant à l'étranger ton naturel langage. Une fille d'Anjou me détient en servage, à laquelle, baisant maintenant le tétin et maintenant les yeux endormis au matin, je vis, comme l'on dit, trop plus heureux que sage. Tu diras à Magny, lisant ces vers ici, « Et quoi ? Ronsard est donc encore amoureux ? Mon Bellay, je le suis, et le veux être aussi, et ne veux confesser qu'amour soit malheureux, ou si c'est un malheur, baste, je délibère de vivre malheureux en si belle misère. »
Donc cette fois, c'est Ronsard qui interpelle son ami et rival du Bellay. J'imagine que Magny est un ami commun, et c'est comme si Ronsard lui écrivait une lettre. On est plongé dans la familiarité des rapports entre tous les membres du groupe.
Oui, et ce type de dédicace est tout à fait courant à cette époque. Hein. Ce poème, précisément, appartient au début du deuxième recueil des Amours, et il s'insère dans une série de poèmes adressés tous à d'autres poètes. Ronsard raconte ses bonnes fortunes, tutoie. Vous avez entendu, là, comme il s'adresse très affectueusement « Mon Bellay », dit-il. Il lance des interjections, il charge son destinataire ici d'une commission à un troisième camarade. Hein, « Tiens, tu diras à un tel », etc. Donc, absolument, c'est vraiment le ton d'une conversation familière entre un trio d'amis qui se taquinent, qui s'amusent de l'amourette de l'un avec cette fille d'Anjou.
Et on reconnaît aussi dans la première strophe le vocabulaire et la tonalité du célébrissime poème de Du Bellay, « Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage » ou « Comme Cétula qui conquit la toison ».
Oui, avec le Mont Palatin, etc. On sent bien ici la connivence entre les deux poètes, Ronsard et Du Bellay. Elle est bien visible. Et on sent aussi cette rivalité que nous évoquions plus haut. Ronsard, si l'on se penche un petit peu sur le texte, semble parodier un petit peu son ami, terme à terme, comme vous l'avez bien senti, puisque vous avez souligné la parenté de ce poème avec « Heureux qui comme Ulysse ». Et on se demande même si Ronsard ne se moque pas un petit peu de son Bellay. Bah oui, parce que à la douceur angevine, dont le souvenir attisait la mélancolie de Du Bellay quand il était à Rome, eh bien lui, il vient opposer la fille d'Anjou, qui au contraire donne tant de bonheur à Ronsard. Et puis de même, à son Bellay qui disait explicitement « Heureux qui comme Ulysse », pour finalement signifier implicitement « malheureux comme moi Du Bellay qui ai quitté l'Anjou et qui suis coincé à Rome », eh bien Ronsard oppose un explicite « malheureux qui comme Ronsard », alors qu'en fait implicitement cela signifie « heureux qui comme Ronsard qui est resté en Anjou sur le sein de cette jeune fille ».
Du Mont Palatin au Tétin, quel retournement!
Eh oui, absolument. C'est vraiment, quand on regarde les mots à la rime, on comprend bien à quel point Ronsard s'amuse de ce contraste entre Rome, la Rome de Du Bellay, et son aventure angevine à lui. Comme vous l'avez dit, le Mont Palatin devient le Tétin, c'est-à-dire le Saint. Et puis latin rime avec matin, le réveil heureux de l'amoureux. Donc c'est vraiment toute l'originalité de ce poème que de montrer cette veine basse dans laquelle Ronsard a voulu s'essayer, alors même que c'était une veine beaucoup plus docte qui avait présidé à l'écriture des Amours de Cassandre. De fait, dans ce poème, du coup, je trouve qu'il fait vraiment passer Du Bellay pour grandiloquent avec son Mont Palatin, avec son latin, alors qu'en réalité, dans Les Regrets, il n'y a aucune grandiloquence. C'était aussi une muse basse que Du Bellay revendiquait. Du Bellay, si vous vous souvenez, déplorait la perte de son inspiration, justement, à cause de son éloignement de la France. Ici, Ronsard va rivaliser avec son ami, mais il le fait de manière vraiment piquante. Mesurons-nous dans l'exercice d'une poésie plus basse, semble-t-il dire finalement à son ami avec quand même un soupçon de provocation. Et donc là où Du Bellay paraît plutôt dépossédé de lui-même, dans ce pays étranger, qui lui fait parler latin, qui change son naturel langage. Et là, ce n'est pas rien, puisque la Pléiade défend le français. Donc Ronsard quand même se moque. Eh bien, au contraire, Ronsard, lui, prend pleine possession de lui-même. « Je veux être malheureux, je ne veux confesser, je délibère. » C'est-à-dire vraiment, je décide de vivre malheureux en si belle misère. Ce qui signifie heureux. Donc on sent ici dans ce texte toute la connivence, tout l'humour aussi de Ronsard, la manière dont il pastiche son ami, les plaisants détournements qu'il opère, et puis une provocation certaine.
On a l'impression que le véritable sujet du poème, c'est sa rivalité avec Joachim Du Bellay. Marie, son histoire d'amour avec Marie devient juste un prétexte.
Oui, c'est d'autant plus un prétexte que Ronsard se démarque aussi de Pétrarque, qui est un des grands modèles des poètes de la Pléiade pour la poésie amoureuse. Et là encore, il le fait de manière tout à fait piquante. Il exploite les codes du pétrarchisme, que sont la soumission à la dame, la fatalité du sentiment amoureux, et il les détourne à sa manière, exactement ce qu'il a fait avec son ami Bellay, où il a repris ses termes et il les a détournés. Ici, Ronsard étant servage, il est soumis à sa dame, oui, mais c'est une paysanne. Et puis le malheur auquel conduit normalement l'amour, chez Pétrarque, se transforme ici en une servitude qui est une servitude volontaire. « Je délibère de vivre en si belle misère », nous dit Ronsard, il le choisit.
Et si Ronsard traite ses amis avec cette malice, on pourrait se demander comment il traite ses ennemis. Il doit être assez horrible.
Oui, il les traite sans ménagement, bien sûr. Ronsard a voué aux gémonies certains de ses rivaux. On en parlera dans le podcast sur Ronsard polémiste un peu plus tard. Alors, ses ennemis, qui sont-ils? Par exemple, ceux qui ne pouvaient prétendre participer au renouveau poétique de la France, par exemple Marot ou ces poètes de langue française qui sont trop humbles, qui ne sauraient illustrer une belle poésie de langue française. Qui sont-ils? Sinon, ils sont aussi ceux qui ne méritent pas le titre de poète, c'est-à-dire des mauvais versificateurs, de simples artisans du vers, ou encore des corneilles qui se parent des plumes des autres en les plagiant, qui est une comparaison que Ronsard reprend à Horace et qu'il aime beaucoup. Dans le passage que vous allez entendre, Ronsard déverse sur un poète protestant tout le mépris que lui inspire ses vers.
« Tu ne le peux nier, car de ma plénitude vous êtes tous remplis. Je suis seul votre étude. Vous êtes tous issus de la grandeur de moi. Vous êtes mes sujets et je suis votre loi. Vous êtes mes ruisseaux. Je suis votre fontaine, et plus vous m'épuisez, plus ma fertile veine, repoussant le sablon, jette une source d'eau d'un surgeon éternel pour vous autres ruisseaux. C'est pourquoi, sur le front, la couronne je porte, qui ne craint de l'hiver la saison tant soit morte. Et pour ce, toute ronde, elle entoure mon front, car rien n'est excellent au monde s'il n'est rond.
Vous venez d'écouter le deuxième épisode de la série Pierre de Ronsard, une révolution poétique. Un podcast de France Mémoire avec Luce Albert, maîtresse de conférences en littérature de la Renaissance. Lecture des poèmes par
Naya Ibrahim, Thibaut Golin
et
Auban Martin.
Musique de l'ensemble Douce Mémoire. Conception Caroline Garde-Lebreton, Luce Albert, Marie Catelin. Réalisation Erwan Guillot.